Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency.
Et on a tous besoin d'un toit au-dessus de notre tête. En tout cas, on va parler logement jusqu'à 10h, comme tous les samedis, avec Sylvain Lévy-Valency, fondateur de Radio IMO. Bonjour Sylvain.
Bonjour Jean-Marie et bonjour à tous.
Au programme aujourd'hui.
Alors, on va partir dans les territoires et voir ce qu'est le quotidien d'un maire. Et d'ailleurs, on a le maire d'une ville d'Île-de-France et le vice-président de la région que j'aurai le plaisir de recevoir dans quelques instants. C'est Jean-Philippe Dugoin-Clément qui va nous parler du quotidien des Français en matière d'immobilier et plus largement du logement, et c'est pas neutre.
Exactement, comme chaque samedi, on vous laisse nous poser vos questions au 0826 300 300, ça vous concerne Sylvain?
Absolument, comme toutes les semaines, vous n'hésitez pas à nous appeler pour nous faire part de vos problèmes, on vous répond avec nos experts. Après l'annonce de Bruno Le Maire sur la hausse des tarifs de l'électricité, ça ne vous a pas échappé Jean-Marie, dimanche dernier, nous avons eu une question sur le standard de Sud Radio, sur les solutions intelligentes pour limiter cette dépense. C'est Bérénice qui interrogera un expert cette semaine. Et enfin Jean-Marie, avec Grégoire, comme chaque semaine, la rédaction vous présentera les biens coup de cœur ainsi que le bien viager de notre partenaire Viagimo. Nous irons à Cannes, Dunkerque et direction Le Havre.
Eh bien, vous nous direz ce que vous préférez. Tout de suite, on commence par les infos à retenir. Les infos de la semaine, c'est avec Bérénice de Villefloriau. Bonjour à vous Bérénice.
Bonjour.
Bonjour Bérénice. Alors on va commencer ces infos avec les tarifs de l'électricité qui vont malheureusement encore augmenter.
Et oui, vous l'avez dit Sylvain, le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire l'a annoncé. On sait, dimanche dernier, les Français auront une facture d'électricité plus importante à partir du 1er février. Celle-ci augmentera de 8,6% à 9,8% en fonction des contrats. Alors, je reprends les mots du ministre. Pour 97% des ménages français, l'augmentation sera sous la barre des 10%, comme je m'y étais engagée. Alors, pour rappel, ce tarif réglementé avait augmenté de 4% en février 2022, de 15% en février 2023 et de 10% en août 2023. Et pourtant, ces hausses importantes, je le rappelle, sont limitées par un bouclier tarifaire mis en place en 2021 pour contenir la flambée des prix de l'énergie provoquée notamment par la crise du Covid et la guerre en Ukraine. Et ce bouclier sera maintenu jusqu'en 2025.
Est-ce qu'après une mauvaise nouvelle, on peut espérer une bonne nouvelle?
Oui, la bonne nouvelle, c'est que la BCE, alors la Banque Centrale Européenne, a annoncé cette semaine maintenir une nouvelle fois ses taux directeurs. Donc c'est la troisième fois, je le rappelle, que la BCE laisse ses taux directeurs inchangés. Et je vous rappelle que les taux directeurs sont les taux auxquels empruntent les banques. Donc s'ils restent stables, ça veut dire que les banques, elles aussi vont maintenir, voire même baisser, les taux qu'elles pratiquent.
Est-ce qu'on peut espérer que les taux d'intérêt ne vont plus augmenter ?
Eh bien, normalement, non, les taux ne vont pas augmenter. Les courtiers disent qu'ils vont même continuer à baisser un petit peu. Selon CAFPI, avec un dossier bien préparé, il serait possible d'emprunter sur 20 ans à des taux inférieurs à 3,70. CAFPI, c'est un courtier. Après, ça dépend des banques. En tout cas, je vous donne un conseil. Si vous cherchez à obtenir un crédit immobilier, n'hésitez pas à faire le tour des banques. Et puis, si une banque vous dit non, ne baissez pas les bras et allez voir d'autres banques. Voilà, mais avec un dossier bien préparé.
Alors, on va parler investissement immobilier maintenant, si vous voulez bien. Donnez-nous le top 5 des villes dans lesquelles on peut investir avec moins de 100 000 euros.
Et pour réaliser un bon investissement, je précise, alors il y a plusieurs critères à réunir. Selon Maslow.imo, qui a sorti cette étude cette semaine, le premier conseil, c'est de viser une ville étudiante, car il y a beaucoup de demandes de location, et donc viser plutôt les petites surfaces qui sont très demandées par les étudiants. Donc dans le top 5, on a Metz en premier, où un studio coûte en moyenne 48 000 euros. En deuxième, on trouve Orléans, où il faudra compter 51 000 euros pour un studio de 20 mètres carrés. En troisième position, Angers, là un studio c'est un peu plus cher, c'est 86 400 euros en moyenne. Et ensuite, il y a Brest, puis Besançon.
Alors, pour terminer ces infos, Bérénice, vous allez nous faire un petit peu rêver.
Oui, parce que ça fait du bien de rêver et que je sais que vous en avez besoin ce week-end.
Alors, ce week-end, surtout Jean-Marie qui a besoin.
Voilà, c'est ça. Cette semaine, je vous raconte un peu ma vie. J'étais à la conférence de presse Barnes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Barnes, c'est un réseau d'agences immobilières internationales spécialisées dans l'immobilier de luxe, de prestige. Mm-hmm. Et donc, durant cette conférence, nous a été dévoilé le Barnes City Index, qui est le classement mondial des villes où les plus riches veulent investir. Et alors, cette année, c'est Dubaï qui arrive en tête. Et on constate que c'est vraiment le nouveau centre de gravité mondial en termes d'immobilier de prestige.
Oui, bon.
Ça vous fait rêver, Dubaï ou...
Non, alors, moi, je vais vous expliquer pourquoi ça plaît autant. En fait, de plus en plus de personnes veulent investir à Dubaï. Bah, déjà, il y a un emplacement très central. C'est entre l'Asie, les États-Unis, etc. Ensuite, il y a une grande qualité de service. Il y a un style de vie très agréable. Il y a un enseignement d'exception. Et enfin, c'est très sécurisé là-bas. La répression est très forte. Donc, il n'y a aucun vol, aucune agression. Bref, c'est vraiment. C'est bien.
Je crois qu'elle va devenir influenceuse à Dubaï. On est d'accord?
Voilà. Merci, Bérénice. J'avais posé d'ailleurs la question à un architecte de renom. Qu'est-ce qu'il fallait faire de Dubaï? Il avait dit la raser.
Exactement. Exactement. Voilà. La reconstruire ou pas d'ailleurs. Voilà. En tout cas, il y a la climatisation. C'est ça le plus important, je pense, dans cette ville. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Bérénice de Villefleurio. À suivre, Sylvain Lévy-Valency. On va recevoir votre invité au programme.
Au programme, on va parler de la politique des territoires, plus largement du logement et de la pression exercée sur les maires pour essayer de résoudre des équations parfois contraires.
Notamment en Ile-de-France, où on écoute Sud Radio sur le 99.9 FM. À tout de suite.
Sud Radio, parlons immo. Sylvain Lévy-Valency.
Jusqu'à 10h, on parle de votre logement, spécialement pour vous aujourd'hui. Francilien qui nous écoutait sur le 99.9 FM. Sylvain Lévy-Valency, on en parle avec votre invité.
Absolument. Bonjour Jean-Philippe Dugan-Clément.
Bonjour.
Vous êtes le maire de Mennecy, vous êtes également vice-président de la région Île-de-France. Vous êtes en outre également le président de Grand Paris Aménagement et de l'établissement public français d'Île-de-France. Inutile de dire que le côté immobilier ou logement vous parle beaucoup en matière de difficultés sur la région, notamment à se loger. On en a discuté la semaine dernière, on voit bien que le gouvernement n'aime pas l'immobilier. Il n'aime vraiment pas l'immobilier, on n'a toujours pas de ministre du logement. Rassurez-nous, est-ce que les maires, eux, essayent de promouvoir toujours le logement dans leur ville? Et comment arrivent-ils finalement à résoudre ces équations avec un gouvernement dont on a l'impression qu'il est sourd ou aveugle?
J'aurais tendance à vous dire que les maires, ça dépend. Il y a différentes réalités. Normalement, lorsque vous êtes maire, vous êtes élu pour améliorer la qualité de vie d'une ville. Améliorer la qualité de vie d'une ville, ça veut dire amener des services publics, amener de l'activité, de l'emploi, pour permettre aux gens qui habitent dans votre ville, eh bien, d'essayer d'avoir des activités, des services, aussi de pouvoir travailler à proximité de chez eux. Et c'est aussi amener du logement pour deux raisons. D'une part, pour amener du logement récent qui, généralement, est de meilleure qualité que du logement ancien en termes de normes, c'est-à-dire contribuer à améliorer la vie des gens qui sont là, et puis également faire face dans nos régions, ce qui est le cas en Île-de-France, à une croissance de population et à une hausse des prix constante si on se prend sur un train de long depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On a eu des épiphénomènes d'écrasement ou de diminution des prix, mais la réalité des faits est que nous sommes sur des régions en croissance économique et démographique constante, et donc avec une hausse du prix de l'immobilier. Et si, face à cette hausse du prix de l'immobilier, qui s'accompagne d'une hausse de population, d'un phénomène de décohabitation de plus en plus important, c'est-à-dire qu'on est moins nombreux par logement, et donc qu'à nombre de personnes identiques, il y a besoin de plus de logements, bah, la réalité, on voit bien que ça ne matche pas entre l'offre et la demande, et donc la logique, normalement, pour un maire normalement constitué, qui réfléchit, qui aménage sa ville, eh bien, c'est d'avoir un accompagnement modéré de sa croissance. Là où beaucoup de collègues se retrouvent aujourd'hui à avoir des difficultés, c'est d'une part que le contexte économique et juridique ne donne plus d'intérêt aux maires pour pouvoir porter ces politiques publiques d'aménagement, d'une part, et puis... D'autre part, que sur une vision parfois un peu dévoyée de l'environnement, eh bien, on se retrouve aujourd'hui à voir souvent des contestations, des refus d'aménagement.
Alors justement, c'est de cela dont on va parler. Vous êtes face à un exécutif qui ne cesse de renier les marges de manœuvre ou les leviers de financement pour les maires. Je ne vais pas revenir sur la taxe d'habitation, mais c'est un des points qui illustrent le propos. Le maire délivre les permis de construire, délivre les autorisations d'urbanisme. Normalement, est censé aussi avoir une vision de l'aménagement de son territoire. Il exerce cette police administrative. Question, est-ce que les maires aujourd'hui ne sont pas un peu au bord de la rupture quand on voit aujourd'hui un langage du gouvernement qui non seulement ne leur donne plus aucun pouvoir, mais essaye même d'essayer peut-être même de centraliser, on le voit avec le pouvoir des préfets, sur l'aménagement du territoire. Je sais que vous êtes très offensif sur ce point-là, et indépendamment de ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce comment le maire va pouvoir retrouver finalement le pouvoir central qu'il doit exercer dans sa ville?
Bah, comment si on change la réglementation à socle législatif constant, aujourd'hui on a dépossédé les élus. La réalité...
D'accord là-dessus, on a vraiment dépossédé les élus.
Oui, mais c'est un mouvement constant depuis déjà une quinzaine d'années. On a un phénomène de reconcentration des politiques publiques, on est dans un État qui est centralisé, qui hyper jacobin, qui est d'origine et d'essence monarchiste, qui s'est construit depuis les Capétiens, depuis Paris, en centralisant et en contrôlant et en se méfiant des territoires. On est un des pays pays les moins décentralisés de l'Union européenne ou de l'Europe occidentale. Et donc, cette tentative de l'État de vouloir tout gérer à la place des territoires, elle existe. Là où ça pose des problèmes sur le logement de manière majeure, c'est quoi ? Qu'est-ce qui faisait qu'une commune construisait du logement ? C'est qu'elle avait les moyens d'accueillir de nouveaux habitants dans de bonnes conditions. C'est que la taxe d'habitation, vous l'avez dit, permettait, avec de nouveaux habitants qui arrivaient, de financer des services nouveaux pour les habitants qui étaient déjà là. Donc c'était un cercle vertueux, une sorte de marche en avant. La suppression de la taxe d'habitation fait que ce cercle vertueux, cette émulation, elle n'existe plus. Premier point. Deuxième chose, depuis maintenant une quinzaine d'années, les recettes des collectivités locales et en partie notamment des communes se sont effondrées. Et donc accueillir de nouveaux habitants, c'est aussi accepter ou trouver les moyens économiques d'avoir de nouvelles recettes pour assumer de nouveaux services. Et ça, l'équation devient de plus en plus difficile. Et puis l'autre chose, quand vous êtes en situation de responsabilité locale et municipale, ce qui est important, c'est de pouvoir assumer jusqu'au bout une politique de logement. Une politique de logement, c'est de décider quel type de logement, quel type de construction, quelle mixité d'usage, quelle mixité sociale et quel type de peuplement. Il y a une réforme dont personne ne parle aujourd'hui, qui est d'une absolument gravissime pour le logement et notamment pour le logement social. C'est ce qu'on appelle le passage de la gestion en stock à la gestion en flux. Pour faire très simple et de manière caricaturale, c'est quoi ? Jusqu'à maintenant, les maires pouvaient soutenir l'accès au logement social pour un pourcentage de ce logement social, en général 20%, des fois un peu plus, des fois un peu moins.
Les attributions, les fameuses attributions.
C'est pas d'attribuer directement, mais ça veut dire que c'est de soutenir des dossiers, dans un cas sur cinq. Ça permettait de garantir un lien, quand du logement social se fait dans une commune, pour les personnes qui y habitent, qui y travaillent, qui y ont leur famille. Et le glissement qui est mis en place par l'État en ce moment, de la gestion du stock à la gestion en flux, revient à déposséder les maires d'une partie de ces attributions supplémentaires, pour la confier aux préfectures et à l'État. La réalité, donc on va se retrouver à avoir des maires à qui on va demander de construire, qui n'auront plus d'intérêt financier à construire et qui ne pourront plus construire pour leurs habitants quand on parle de logement social. On marche sur la tête.
C'est très clair. En fin d'année, les promoteurs immobiliers, vous les connaissez bien puisque vous êtes l'un des rares maires, et je le dis bien, en France, à connaître très bien l'industrie immobilière. Et l'offre est en panne de plus de 40% dans certaines régions. Moins de réservations, les logements neufs accusent une baisse de 35%. Il faut rappeler que quand même cet habitat permet de décompresser les prix dans l'ancien, mais ça vous le savez déjà. On a parlé à multiples reprises sur ce plateau d'un marché immobilier qui est complètement grippé. Ça se traduit comment, au concret, pour un élu municipal, sachant que vous êtes adhérent à l'Association des maires d'Île-de-France, que tous vos collègues aujourd'hui ont le même problème. Aujourd'hui, il y a une pression sur l'Île-de-France qui est sans précédent.
Ça se traduit, en fait, on est dans une crise multifactorielle, on produit trop peu, ce qu'on produit est trop cher, et les acheteurs n'ont plus les moyens d'acheter, et les locataires n'ont plus les moyens d'accéder à un loyer. Globalement, quand on parle de la crise du logement, c'est ça la crise du logement. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on ne produit pas suffisamment de logements, quand on ne produit pas du logement qui est suffisamment accessible, et c'est ce à quoi tous les maires sont confrontés. Vous voyez, moi, tout à l'heure, je vais retourner en mairie, je vais avoir une permanence, je vais recevoir une dizaine de personnes, dont 70%, parce qu'ils sont en situation de non-logement ou de mal-logement. Eh bien, quand on ne produit pas de logement accessible, en réalité, qu'est-ce qu'il se passe derrière ? C'est qu'on a des gens qui vivent mal. Le logement, c'était un facteur d'intégration sociale. C'était un moyen qui permettait à chacun d'avoir son parcours de vie, de quitter le domicile de ses parents, de se mettre en couple, de faire grandir ses enfants, d'offrir un parcours de vie à ses enfants. Et actuellement, depuis déjà quelques années, le logement est devenu un facteur de désintégration sociale. C'est-à-dire que le coût du logement, et souvent on parle du logement d'un point de vue technique, le logement devrait en parler que d'un point de vue social et sociologique. Le coût du logement, il est inversement proportionnel dans les revenus à votre classe sociale. C'est-à-dire que quand vous êtes quand vous venez de classe populaire ou de classe moyenne, le coût du logement est beaucoup plus important que quand vous êtes sur des classes moyennes supérieures ou supérieures. Et le coût du logement pour des classes populaires et moyennes n'a cessé d'augmenter par rapport aux revenus. C'est même devenu le premier poste de dépense.
Donc vous voulez dire que c'est la dépense contrainte la plus élevée.
C'est la dépense contrainte la plus importante. Quand on parle de classe populaire, le logement, globalement, quand on prend le loyer, quand on prend les frais de transport qui sont liés au logement, les assurances, le chauffage qui augmentent, ça peut représenter représentait plus de la moitié des revenus. Et ce logement est devenu aujourd'hui un facteur de désintégration sociale du pays parce qu'on ne donne plus la capacité aux gens de pouvoir se loger dignement, des tarifs décents. Quand on reçoit, quand on est maire, des gens qui travaillent, pas sur des gros salaires, mais qui travaillent et qui se retrouvent suite à un accident de vie, un divorce, une séparation, à dormir dans leur voiture et puis à faire une ou deux nuits par semaine à l'hôtel ou chez un ami pour pouvoir se doucher. La réalité du non-logement, du manque de logement, c'est ça aujourd'hui. Et quand on est maire, on se retrouve à assumer des politiques publiques où on n'a plus d'intérêt financier à le faire, à être assez souvent accusé par le lobby écolo d'être un maire bétonneur, mais la réalité c'est qu'on se retrouve aussi face à des gens qui sont en situation d'être dans un T2 ou un T3 avec deux ou trois enfants, d'avoir des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas se loger, qui sont dans leur voiture, d'avoir des gens qui vivent séparés et qui ne peuvent pas récupérer la garde de leurs enfants parce qu'ils n'ont pas accès à un logement leur permettant de récupérer la garde de leurs enfants. La crise du logement, très concrètement, c'est ça. Et ça, personne n'en parle. Quand on parle du logement, on parle de ratios, on parle de normes, on ne parle pas de ce qui est avant tout un problème social et sociologique.
Ce qui est rassurant, c'est d'entendre des élus locaux comme vous qui le disent justement, et c'est la raison pour laquelle on vous a donné la parole. Merci Jean-Philippe Dugoin-Clément. Je rappelle que vous êtes le maire de Mennecy, vice-président de la région Île-de-France, président de l'établissement public foncier et de Grand Paris Aménagement. Merci.
Merci. Allez, à suivre sur Sud Radio. Parlons Immo, toujours votre logement et vos questions au 0826 300 300. On va parler de votre facture d'électricité dans un instant avec Bérénice de Villefleurio. À tout de suite.
Sud Radio, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nextcity.fr. Nextcity présente Sud Radio, parlons Immo. Sylvain Lévy-Valency.
Et que vous soyez propriétaire, locataire, vous avez une question ou un problème avec votre logement, on en parle, on vous laisse nous poser vos questions. Sylvain Lévy-Valency.
Merci Jean-Marie, effectivement, au 0826 300 300. Et nous avons eu un message sur le répondeur de Sud Radio, Bérénice, ça concerne les prix de l'électricité.
Et oui, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ils vont augmenter à partir du 1er février, ils seront une augmentation entre 8,6 et 9,8%, et forcément, on a reçu pas mal de message sur comment mieux gérer sa facture, comment voilà, faire des économies pour éviter de subir cette augmentation. Alors nous allons accueillir notre expert, il s'appelle Pierre-Marie Perrin, c'est le directeur des affaires publiques de Helio, qui est spécialiste de la rénovation énergétique. Bonjour Pierre-Marie.
Bonjour.
Alors voilà, je vous avais entendu, on a reçu de nombreux messages d'auditeurs qui s'inquiètent un petit peu quand même, parce que c'est vrai que la vie coûte cher maintenant, on subit toujours une inflation, même si elle est moins forte. Comment essayer de ne pas trop subir cette augmentation de l'électricité ?
Bah, la première des choses, c'est de bien regarder ses factures d'électricité et de regarder un petit peu les postes où l'on consomme le plus. La première, c'est le chauffage. C'est vraiment la première dépense dans les factures énergétiques. Donc, il faut réussir dans son logement, peut-être à baisser d'un degré, de regarder ses consommations de chauffage. Après, vous avez des petits gestes du quotidien qui sont assez faciles à faire, notamment le soir, ne pas hésiter à baisser ses stores, mettre ses rideaux ou éteindre sa box internet. C'est des petits gestes du quotidien, mais qui permettent de mieux maîtriser sa facture énergétique.
La box internet, on l'éteint le soir avant de se coucher, c'est ça ?
Exactement. On l'éteint le soir avant de se coucher ou on l'éteint quand on part de chez soi.
Mais est-ce qu'on met en veille, bonjour Pierre-Marie Perrin, est-ce qu'on met en veille finalement tous les appareils, bon, à part le congélateur ou le frigo,
oui,
bien évidemment,
pour pas être malade.
Mais est-ce qu'il faut carrément débrancher ou pas ?
Il faut débrancher. Plus on débranche, plus on éteint, l'éclairage de sa maison. Plus on gagne et on fait baisser sa facture énergétique.
Oui, parce que ça c'est une question que je me pose souvent. Oui. C'est vrai qu'un appareil en veille, ça consomme quand même beaucoup, c'est ça ?
En veille, ça consomme au moins 20 ou 30%, alors que si on l'éteint, on fait vraiment baisser de 30% sa consommation.
Alors, avec ces premiers réflexes, effectivement, si on veut optimiser la consommation, et c'est le sens de la question qui nous a été posée, on peut estimer l'économie d'énergie à quel type de pourcentage ? Est-ce que vous avez des statistiques là-dessus ?
On a des statistiques. Si on fait ces petits gestes du quotidien, on peut la baisser jusqu'à 15%. Donc, ce qui est énorme, c'est... Il faut s'astreindre à cette règle. Si on le fait, on peut baisser de 10 à 15% sa consommation énergétique. Donc, c'est pas anodin. Et puis après, vous avez d'autres procédés. Vous pouvez mettre en place des outils pour monitorer ou des thermostats qui vont vous permettre de réguler le chauffage, de réguler ces objets connectés. Et tout ça, c'est très important parce que ça participe aussi à faire baisser la facture.
Mmh. Et alors, qu'est-ce qu'il y a où on peut trouver ces outils, par exemple, et comment on se renseigne pour nos auditeurs qui seraient intéressés
et même, je vais compléter la question, est-ce qu'on peut songer, du coup, Miramari, vous qui êtes spécialisé dans la rénovation et les gains énergétiques, peut-être à changer des appareils ou la façon dont on traite ou on gère l'électricité, enfin, je sais pas, une pompe à chaleur ou des sujets qui permettraient d'économiser, parce que là on a quand même des sujets de plus en plus importants. Les Français vont poser cette question. Oui. Les hausses sont pas neutres du tout, hein.
Exactement. Donc là, c'est la deuxième étape. Aujourd'hui, le gouvernement incite à faire des travaux de rénovation énergétique qui vont permettre de baisser bien plus encore la facture énergétique et donc réaliser un audit énergétique afin de concevoir et afin de voir là où on consomme dans notre logement et faire appel à un dispositif France Rénov. Allez voir mon accompagnateur Rénov qui va vous indiquer et qui va voir aux dépenses énergétiques et vous accompagner dans vos travaux de rénovation énergétique. Donc effectivement, si vous installez une pompe à chaleur, si vous isolez votre logement, que ce soit vos planchers, que ce soit l'isolation des murs par l'extérieur, vous allez pouvoir faire baisser votre consommation énergétique. Et donc, on vous conseille d'aller voir des experts de la rénovation énergétique qui, là, vont vous engager dans des travaux de rénovation plus longs, mais qui vont vous permettre de gagner 30-40% d'économie d'énergie.
Et il y a des travaux dont on parle beaucoup, alors plus pour les propriétaires de maisons, c'est les panneaux, vous savez, photovoltaïques, avec on récupère l'énergie solaire et on la transforme, par exemple, en chauffage. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus?
Alors ça fait de plus en plus, et quand c'est couplé à une rénovation énergétique, c'est extrêmement judicieux, parce que ça nous permet d'autoconsommer, et donc de récupérer l'énergie qui est produite par le solaire, et de la remettre directement dans le réseau de sa maison, et donc de pouvoir avoir une énergie bien moins chère. Et l'autre partie qui n'est pas consommée, vous pouvez la revendre sur le réseau, qui vous permet de faire
de
baisser considérablement. De gagner de l'argent, ouais. Évidemment.
Et ça, quand on habite un appartement, c'est pas possible?
Alors c'est plus compliqué, effectivement.
C'est des copropriétés.
Ouais. Des copropriétés, il peut y avoir l'autoconsommation collective, mais il faut, les démarches sont plus longues, il faut travailler avec son bailleur, avec son syndic, ça prend plus de temps. Mais sur les maisons individuelles, c'est extrêmement efficace et il ne faut pas hésiter à faire appel à des experts. Et vous avez même aujourd'hui des batteries que vous pouvez installer et même des batteries virtuelles qui vous permettent de revendre ou de réutiliser l'énergie que vous avez produite sur les panneaux solaires en différé. Donc, ce qui permet de ne pas perdre l'énergie qui a été développée.
Pierre-Marie Perrin, je profite que Jean-Philippe Dugoin-Clément, qui est avec nous toujours sur le plateau, je lui pose d'ailleurs la question. Ces questions d'énergie pour les habitants qui augmentent sensiblement, c'est une question qui vous est souvent soumise, parce que vous, les maires, on vous sollicite sur cette question. Un éclairage.
C'est une question majeure, parce que ça vient impacter directement le pouvoir d'achat des Français. Donc, disait, hein, 10% d'augmentation cette année, ça fait suite à des augmentations constantes depuis 2022, et donc on est sur des facteurs qui viennent faire très mal au portefeuille des gens, avec un besoin d'accompagnement et de transition. Et puis, on le paye de deux manières, on le paye d'une part les particuliers individuellement, mais aussi sur ce qui est facturé, parce que les entreprises, les collectivités ont toutes des augmentations qui, pour le coup, sont beaucoup plus élevées, parce qu'il n'y a pas de bouclier dessus, et donc on le sent sur le coût de l'inflation d'une manière générale. Enfin, le coût la question de l'année dernière des boulangers, si vous vous rappelez, qui avec des augmentations de tarifs.
Avec un double problème d'ailleurs, parce qu'il faut le dire, d'abord vous avez l'énergie consommée par les appareils, le four et compagnie, et ensuite vous êtes dans des commerces qui ont d'énormes vitrines, qui sont souvent d'énormes baies vitrées, rarement double vitré, et enfin, c'est un cauchemar à isoler.
Un cauchemar.
En fait, c'est un chantier absolument colossal, et c'est un chantier qui est double, parce que d'une part, c'est la production d'énergie, c'est l'autoconsommation, c'est le type de chauffage qu'on utilise, et puis la deuxième chose, c'est le chantier de la rénovation et de l'isolation. Le problème qui se pose, c'est qu'on se retrouve à devoir gérer en quelques mois ou quelques années ce qui, normalement, se fait sur un train de plusieurs décennies.
Oui, c'est ça, c'est le problème du changement climatique, en tout cas. Merci beaucoup, Bérénice de Villefleurio. Je rappelle d'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent peuvent nous poser leurs questions en laissant leur message au 0826 300 300.
Merci Pierre-Marie Perrin, également directeur des affaires publiques chez Elio.
Merci beaucoup.
Allez, tout de suite, on fait le tour de la France. Tiens, justement, on va voir où c'est isolé ou pas, avec Grégoire Daricot qui nous rejoint. Bonjour à vous Grégoire.
Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous.
On commence par un bien qui est à vendre en Viager avec notre partenaire Viagimo.
Effectivement, et pour ce premier bien, je vous emmène près de la Croisette, dans la cité qui a vu naître, footballistiquement parlant, notre Zizou national, Saint Zinedine Zidane. Zidane, vous l'aurez reconnu, je parle bien évidemment de Cannes. Et notre bien de la semaine est un appartement de 3 pièces, 66,30 mètres carrés, situé en rez-de-jardin dans le quartier de la Basse-Californie, à 200 mètres des quartiers Palm Beach et Moët Rouge. Non, vous n'êtes pas aux States, vous êtes bien sur la Côte d'Azur.
Les States.
Dans un quartier calme donc, au fond d'une impasse, vous tomberez sur une petite copropriété sécurisée et bien entretenue. Notre bien est là, il présente de beaux volumes, il est exposé sud. Vous commencez donc par l'entrée avec des placards, vous avez ensuite des WC, deux chambres prolongées par une véranda de 14 mètres carrés. Et enfin, vous verrez une salle de bain avec douche et une cuisine séparée pouvant s'ouvrir sur le séjour et qui donne sur la terrasse et le jardin. Le plus de cet appartement, outre un accès privé au parc de la propriété, vous aurez un garage de 25 mètres carrés et une cave.
Alors, justement, les conditions de ce viager, dont la moyenne d'âge, d'ailleurs, à Cannes, dans le quartier, est quand même assez élevée.
Alors, ça va, Sylvain, c'est assez jeune. Cet appartement-là, qu'on vous propose, a une valeur vénale de 480 000 euros. Il est proposé ici en viager occupé, assorti d'un droit d'usage et d'habitation à vie au profit d'une dame de 68 ans. Si vous voulez l'acquérir, il faudra un bouquet de 123 791 exactement, euros, pardon, et une rente viagère mensuelle de 500 euros. C'est une vraie belle opportunité. Je vous conseille d'aller voir et de foncer, contacter sans plus attendre l'agence Viagimo de Cannes ou de vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos.
Et surtout, ne trébuchez pas. Oui, www.viagimo.fr. Exactement, www.viagimo.fr. Je vous ai fait un croche-patte. N'oubliez pas de ne pas trébucher en montant les marches avec Bérénice. On continue le Tour de France, mon cher Grégoire Daricot, avec vous. Vous avez trouvé un autre bien à acheter cette fois-ci.
Oui, un premier bien situé dans une ville qui a changé 3 fois de nationalité au cours de son histoire, une ville qui fut espagnole, anglaise et enfin française. Jean-Marie, vous me voyez venir ?
Oui, mais écoutez, on est dans le nord là.
Voilà, on va à Dunkerque. Bravo Jean-Marie.
Dunkerque, ville que va retrouver peut-être Patrice Bergritte.
Oui.
Oui, notre ex-ministre.
Patrice Bergritte apparemment ne fait plus partie du gouvernement.
Futur ex-ministre.
Alors, en tout cas, on va continuer à visiter. C'est bien, justement, du côté de Dunkerque. Et c'est où, alors ?
Oui, alors c'est un appartement de 5 pièces, de 155 mètres carrés, situé en centre-ville. Vaste appartement lumineux. Il est situé au dernier étage d'un immeuble de 4 étages. Très spacieux. Notre appartement se compose d'une pièce de vie de 40 mètres carrés, traversante, avec balcon, une cuisine séparée, 3 chambres avec placard de rangement, un bureau, une buanderie et une terrasse de plus de 90 mètres carrés. Bref, c'est un bien très sympa. On a la possibilité d'acheter en plus un garage pour 17 000 euros supplémentaires. L'ensemble est proposé ici au tarif de 231 000 euros. Vous pouvez voir les photos et infos sur le site de bienici.com.
Alors, financement ?
Alors, avec un apport de 20%, Sylvain, soit 46 200 euros, un emprunt sur 25 ans à 4,5%, vous avez des mensualités à 1027 euros.
Alors, un troisième bois rapidement. Vous nous emmenez au Havre.
Au Havre, exactement, en Normandie.
On reste dans le balnéaire. Écoutez,
ville, alors, mais quand même, très intéressant. Le Havre, c'est la ville dans laquelle on retrouve la plus grande pharmacie de France, mm-hmm. la plus grosse boule à facettes du monde, ou encore le plus long escalier de France. Voilà,
donc ça, entre c'est pour les autres. Il est signé par un urbaniste et architecte, Auguste Perret, du coup, avec des appartements assez modernes.
Et nous avions d'ailleurs fait une émission là-bas.
Exactement, superbe émission. Et cette fois, c'est une maison de 96 mètres carrés que je vous propose, qui comprend 3 pièces et un terrain de 48 mètres carrés, une maison qui se trouve dans le quartier prisé de Sanvic. Elle se compose d'un espace de vie spacieux et confortable avec 3 chambres et un salon lumineux. Elle est idéale pour une famille. S'y situe dans un quartier calme et bien équipé. Elle est proposée au tarif de 227 000 euros sur le site de Orpi.com.
Un apport de
20%, 45 400 euros. Un emprunt à 25 ans à 15%, pardon. Vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 974 euros.
Bon, vous choisissez lequel,
merci,
Grégoire.
Moi, j'aime bien Dunkerque.
Vous aimez bien Dunkerque.
Ouais,
écoutez, allez-y, profitez-en. Et vous nous enverrez des nouvelles et du maroilles, pourquoi pas. Je ne suis pas sûr que ce soit le.
Jean-Marie,
c'est Sud Radio, c'est pas dans Radio, pardonnez-moi. En tout cas, passez une excellente journée à notre écoute, toujours à l'écoute de Sud Radio. Chers amis, je rappelle que c'est la fin de cette émission, mais qu'on pourra la retrouver en podcast sur sudradio.fr et qu'elle sera rediffusée mardi prochain à midi.
C'est à midi.
Exactement, voilà, à midi sur le site de Radio Immo. Voilà. Vous avez raison, merci beaucoup Sylvain Lévy-Valency. On vous retrouve samedi prochain à l'antenne de Sud Radio en direct à partir de 9h15, comme toutes les semaines. À très bientôt.
Sud Radio, parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency.